Chapitre 10.
Qu'est-ce que toi? T'es un peu, comment dire?
Ouais, Zarbi ces temps-ci. Tombant de presque 2 mètres, le regard de Dennis enrobait Léonie dans son infinie douceur. Allongée sur son lit, elle avait espéré que la contemplation du ciel bleu par la lucarne lui apporterait un peu de paix. Il avait fait beau aujourd'hui, une journée vraiment printanière, et Dennis avait tombé la veste blanche de son survêtement pour exhiber un maillot rouge, le 34, d'où débordait une impressionnante musculature. Léonie ne pouvait pas lui révéler que des hiboux en blouse blanche lui avaient injecté un produit chimique ou une autre saloperie qui lui donnait l'impression de s'être dédoublée. Les hiboux l'avaient prévenue. Elle avait résolu de ne pas se laisser avoir comme la première fois, mais ils avaient probablement forcé la dose, parce que la voix résonnait en elle avec une force parfois effrayante, comme si quelqu'un hurlait 3 ou 4 centimètres à l'intérieur de ses oreilles. Et la voix l'implorait de retourner au laboratoire pour mettre fin à l'expérience. À la terrible expérience. La tonalité dominante était la souffrance. Une souffrance indicible. Une sensation d'étouffement, d'oppression. De temps à autre, la voix se calmait, n'émettait plus qu'un murmure désolé, et Léonie pouvait enfin se détendre, dormir avec un peu de chance. Elle comptait les heures. Plus qu'un jour et demi avant le deuxième rendez-vous, avant la délivrance. 1 jour et demi avant de toucher le solde des 1500 euros. Elle pourrait payer les 200 euros restants à Vinci Code et le loyer à Michael et ses boules. Elle avait remis l'intégralité du premier acompte à l'ancien faussaire. « Il en manque 200, putain !» avait vitupéré Vinci Code. Comme Dennis n'était pas là pour l'intimider, il avait joué les coqs ébouriffés sous le regard désapprobateur de Lucie et vomi un flot d'insultes qui n'avait eu sur Léonie aucun effet. Elle avait entendu bien pire dans la bouche des clients de tant de destinées. Elle s'en était tirée en lui promettant de lui remettre le reste dans 4 jours.
4 jours, pas un de plus.
Elle n'avait pas parlé aux Bulls de l'attitude de Vinci Code. Elle ne voulait surtout pas être source de conflits. Elle était bercée de drôles de sensations quand Dennis s'approchait d'elle. Rien à voir avec les réactions suscitées par les hommes qui s'étaient succédés dans la chambre à cauchemar du pavillon de tant de destinées. Dennis avait le pouvoir de retirer les épines que ceux-là, les porcs, lui avaient plantées dans le cœur, dans les tripes, entre les cuisses. Elle ne tressaillait pas. Elle ne tremblait pas. Elle ne se crispait pas en sa compagnie. Elle devenait au contraire plus tendre et molle que du chocolat fondu. Elle adorait se rouler dans le velours sombre et tendre de ses yeux. Lui-même ne semblait pas indifférent à ses charmes. Il se débrouillait pour venir la voir ou la croiser plusieurs fois par jour et s'asseyait à ses côtés lors des repas pris en commun dans la grande salle à manger. Michael les fixait d'un air complice, comme s'il encourageait leur rapprochement. Les regards vénéneux que jetaient les filles à Léonie montraient en tout cas qu'elle la considérait déjà comme l'officiel de Dennis. Un boule de moins à pécho, les bonnes places étaient de plus en plus rares dans le squat. Elle se demandait visiblement ce qu'elle avait de plus qu'elle, cette petite négresse aux grands yeux naïfs, arrivée la dernière avec des fringues de grand-mère, même pas le ventre et les jambes à l'air, même pas maquillée, même pas les ongles peints, même pas la moue ou la fesse provocante. À vous dégoûter de vous mettre en quatre pour piéger les regards. C'est rien, rien du tout. Ça m'arrive des fois, ça va passer. Dennis s'accroupit près du lit et enfouit la petite main de Léonie dans sa gigantesque paluche. Le parfum du boule répandait ses senteurs agréables et discrètes dans l'atmosphère confinée de la chambre. L'or des médailles accrochées à la chaîne passée autour de son cou soulignait le bronze de sa peau. Il lui avait expliqué que la première médaille représentait la Vierge de Fatima, qu'un extrait de la première sourate du Coran était gravé sur la deuxième et qu'on pouvait lire, sur la troisième, 2 mots de la Kabbale hébraïque, Ansof, la lumière, et Tzimtzum, le retrait. Il portait sur lui les symboles des 3 religions parce qu'elles étaient sœurs, issues du même livre, et que les temps étaient venus de les rassembler, de prendre ce qu'il y avait de meilleur en elles.
« Faut pas non plus oublier le culte des boules », avait-il ajouté en riant.
« L'idéal serait d'organiser de grandes cérémonies écuméniques dans une salle de basket. »«
Tu dois surtout pas jouer avec la santé, petite sœur. Tu veux que je fasse venir un médecin ?»
Léonie se redressa avec une telle brusquerie que ses lèvres se suspendirent à quelques centimètres de celles de Dennis. Elle ne recula pas, interdite, perché dans son souffle chaud. Elle n'avait jamais embrassé d'homme. Les clients de tante destinée avaient réservé sa bouche à bien d'autres usages. Elle avait vu la hyène et le paon s'embrasser avec une étrange voracité sur le divan. Elle avait cru qu'ils se rongeaient l'un l'autre avant de se recracher mutuellement, comme écœurés, lèvres et menton barbouillés, yeux troubles. Elle avait trouvé ça encore plus répugnant que les manies des clients, surtout les bruits de chair mouillée, de succion. Dennis se rapprocha d'elle et la frôla des lèvres. Elle eut un mouvement de retrait, un réflexe idiot. La certitude brutale, suffocante qu'un baiser scellerait leur union jusqu'à la fin des temps. Elle s'immergea dans les yeux noirs du grand boule pour s'assurer qu'il mesurait également l'importance, la gravité de leur pacte. La voix parasite s'était tue en elle.
« Je sais les saloperies qui t'ont fait subir, » murmura Dennis. « J'attendrai que tu sois prête. T'inquiète pas. C'est toi que je kiffe. Toi que je veux. Les autres meufs, t'as ma parole, elles m'intéressent pas. »
Il se leva dans un concert de craquements et de froissements. Léonie, soudain privée de sa chaleur, envahie d'un grand froid, regretta sa dérobade. C'était peut-être mieux dans le fond. Ils avaient parcouru une bonne partie du chemin l'un vers l'autre, mais elle était un oiseau meurtri, farouche, prêt à s'envoler à la moindre alerte. Elle n'était pas encore apprivoisée.
« Tu veux vraiment pas que j'appelle un médecin ?»
demanda-t-il, la main sur la poignée de la porte. Rares étaient les médecins qui acceptaient de s'aventurer dans le squat. Bien qu'ils fussent payés deux ou trois fois plus qu'une consultation ordinaire, les praticiens du quartier refusaient de se compromettre avec des hors-la-loi. On en avait quand même déniché deux, un homme et une femme, anciens de Médecins sans frontières, qui exerçaient dans le cœur du 9-3 et se déplaçaient pour les urgences. Les pitbulls leur épargnaient la fouille réglementaire à l'entrée. Les dickmés, comme on les appelait, restaient quelquefois après les consultations pour papoter avec les squatteurs, boire un jus de fruits, manger un morceau ou écouter de la musique. Elle, blonde, mince, ultra classique, pâle, les yeux presque entièrement blancs, paraissait échouée par erreur dans un univers de jupes au ras des fesses, de couleurs hurlantes, de string, de piercing, de tatouages, de nombril à l'air, de cuir, de baskets, de casquettes, de chaînes, de croix et d'énormes bijoux. Lui était du genre babacool, pull torsadé, pantalon de velours, barbe et queue de cheval. Il n'était ni amant ni même ami, seulement des confrères qui, partageant la même vision de la médecine, avaient décidé de s'associer et d'exercer dans les quartiers difficiles. Il n'avait diagnostiqué que peu de maladies graves en 3 années de visites régulières. Une hépatite C, une péritonite, 2 amibiases, un problème cardiaque, Vinci Code, et un ulcère variqueux. En cas de nécessité, ils organisaient eux-mêmes le transfert à l'hôpital en veillant à ce que les flics ne sautent pas sur l'occasion pour envahir le squat. Pour les maladies ordinaires et saisonnières, grippe, gastro-entérite, angine et autres petits bobos, ils livraient eux-mêmes les médicaments.
« Ça ira mieux dans 1 ou 2 jours. » Léonie supplia intérieurement Dennis de se pencher sur elle et de la frôler de nouveau de ses lèvres. Elle ne reculerait pas cette fois. Elle lui offrirait ce qu'elle avait de plus précieux. Elle signerait le pacte.
« Tu passes peut-être trop de temps à apprendre ?»
Dennis pointa l'index sur la tête de Léonie.
« Ça se bouscule là-dedans. Tout ça va un peu trop vite. Faut que tu mettes le frein. »
Elle consacrait une grande partie de ses journées à rattraper ses retards. Alia, une fille d'une 20aine d'années originaire du Pakistan et réfugiée dans le squat pour échapper à un mariage forcé, l'aidait à combler ses lacunes en lecture. Léonie avalait les lettres, les mots, les phrases, avec une boulimie qui étonnait les autres. Elle parvenait maintenant à déchiffrer les livres pour enfants et même certains ouvrages pour adultes et brûlait d'explorer les mondes vertigineux qui s'entrouvraient devant elle.
Je reviens te voir dans un moment. Au fait, j'ai pas du tout apprécié la façon dont Vinci Code t'a causé l'autre fois. C'est Lucie qui me l'a raconté. Tout finit par se savoir dans le squat. Je suis allé lui dire le fond de ma pensée au code. Crois-moi, il ne te manquera plus de respect. Et puis, t'inquiète pas pour le fric. T'auras toujours ce qu'il faut, même si tu peux pas bosser.
Il l'enveloppa d'un regard déjà baigné de nostalgie avant de sortir. Des larmes roulèrent sur les joues de Léonie. Et la voix, qui ne les avait pas dérangés dans leur intimité, se remit à parler.
« Faites-moi sortir de là. Faites-moi sortir de là.
Léonie s'était endormie après le départ de Denis, brisée de fatigue. La complainte, lancinante, l'avait réveillée au cœur de la nuit. Elle avait cru entendre un cri déchirant et se réveiller dans la chambre à cauchemar du pavillon de tante destinée, la hyène. Prise de panique, elle s'était débattue dans les draps et avait repoussé le porc allongé contre elle jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il n'y avait personne dans son lit, qu'elle était seule dans sa petite piaule sous les toits. Elle haletait, transpirait. Un pan de ciel étoilé se découpait sur le plafond. La lumière douce de la lune saupoudrait d'or pâle les bords de la lucarne. Elle s'était détendue. Puis la voix avait de nouveau retenti, si nette et forte qu'elle avait sursauté. Pour la centième fois, elle s'était demandé s'il s'agissait réellement d'un effet dû aux médicaments des hiboux ou si elle n'était pas possédée. Elle s'était documentée sur les maladies mentales, sur la schizophrénie en particulier. Un drôle de mot qu'elle avait du mal à lire et à prononcer. Désagrégation psychique, selon le vieux dictionnaire gisant sur les étagères défoncées de la pièce sombre abusivement baptisée « bibliothèque ». Ambivalence des pensées, des sentiments, conduite paradoxale. Ambivalence qui comporte deux valeurs contraires, doubles, comme deux personnes en une, comme deux voix. Rassérénée, Léonie avait essayé de ne plus prêter attention aux manifestations de son double. Un nuage s'étiolait au-dessus de la lucarne. Un voleur, un songe imprégné de la lumière de la lune et de la paix nocturne. La voix prenait une résonance inquiétante dans le silence du squat. Léonie avait le plus grand mal à croire qu'elle provenait d'une zone inconnue d'elle-même. Elle semblait si différente. On aurait juré qu'elle appartenait à un garçon. Elle prononçait des bribes de phrases qui, dans l'esprit de Léonie, résonnaient à la façon de pensées étrangères. « Je n'aurais pas dû accepter ça, mon Dieu. Je ne vais pas pouvoir revenir. Elle ne retrouvera jamais le chemin. Je suis perdue, perdue. » Elle se leva, s'étira en veillant à ne pas faire craquer les lattes rugueuses du plancher, souleva la lucarne et, la main sur la poignée de fer, respira l'air chargé d'odeurs de la ville. Son attention s'égara un instant dans le lent étirement du nuage qui vêtait la lune de voiles vaporeux. Elle reprit courage, en se répétant qu'elle n'avait plus que quelques heures d'attente. Elle n'aurait jamais imaginé que le médicament expérimenté par les hiboux réveillerait en elle une personnalité inconnue et rebelle, une autre Léonie engendrée par les années de claustration dans le pavillon de tante destinée, une Léonie secrète et haineuse qui se révoltait contre la Léonie offerte, innocente, résignée, aux hommes s'invitant dans la chambre au cauchemar. C'était sans doute cette Léonie-là, humiliée, rageuse, qui s'était dérobée quand les lèvres de Denis avaient effleuré les siennes.
« Tu sors ?» Les pitbulls de faction avaient noué des foulards en bas de leur visage. Un soleil radieux luisait sur les pavés lisses de la rue. Il faisait encore frais dans le squat, et la chaleur extérieure exerçait sur Léonie une irrésistible attraction. « On voit rôder des cums pas clairs dans le coin, » reprit l'un des pitbulls en tournant sa casquette sur le côté. « Il y a sans doute une attaque qui se prépare. Aujourd'hui, il ferait peut-être mieux de rester peinarde dans le squat.
« Je dois absolument sortir, » dit Léonie.
Les pitbulls la détaillèrent avec des nuances de regret dans les yeux. Même s'ils la trouvaient à leur goût, même si les filles de son genre n'étaient pas si courantes dans le squat, ils n'oubliaient pas qu'elle était réservée à Denis, le boule, et que, par conséquent, elle leur était strictement interdite.
« Pas de problème, frangine. S'il y a du baston quand tu reviens, barre-toi et attends que les choses se tassent avant de rentrer. D'accord ?»
Denis lui avait parlé, après le petit déjeuner, d'une offensive probable des flics. Peut-être qu'ils auraient un engin de démolition cette fois, qu'ils essaieraient de défoncer l'entrée, qu'ils balanceraient leur saloperie de gaz lacrymogène pour obliger tout le monde à sortir. On procéderait à la distribution de masques à gaz, on amasserait des sacs de ciment et de gravats devant l'entrée principale, puis, si les keufs réussissaient malgré tout à entrer, on condamnerait les couloirs et les autres issues jusqu'à ce qu'on ait la possibilité de reconquérir l'espace perdu. Les flics se lassaient plus rapidement que les squatteurs. Il suffisait de leur résister quelques jours, voire quelques heures, pour qu'ils abandonnent la partie. Michael et les Bulls n'étaient pas inquiets. Ils avaient déjà repoussé 4 ou 5 attaques. Ils étaient rodés. Elle marcha d'une allure joyeuse dans la rue, se gorgeant de chaleur printanière. Elle avait passé des vêtements pratiques au cas où elle devrait courir. Un sweatshirt, un jean large et des chaussures de sport. Elle s'était munie d'un sac de cuir dans lequel elle avait entassé son porte-monnaie
sa fausse carte d'identité, son téléphone portable, des mouchoirs en papier et un tas d'objets incongrus. Alia l'avait converti au sac à main quelques jours plus tôt. « Tu verras, tu seras une vraie femme avec ce truc, c'est à la fois pratique et classe. » La vitesse à laquelle il se remplissait était pour elle une source sans cesse renouvelée d'étonnement. La voix de l'autre Léonie ne résonnait plus que de manière sporadique. Elle frémissait de joie, la joie d'en avoir bientôt fini avec l'expérience des hiboux, la joie de revenir à Denis, délivré de son double, la joie procurée par la chaleur revigorante du jour. Elle se rendit en métro à l'adresse du laboratoire. Les hiboux l'accueillirent, avec la même politesse professionnelle que les autres fois, le grand aux cheveux en pétard et l'autre au visage enfantin. Ils lui posèrent les questions d'usage, se montrèrent attentifs lorsqu'elle leur parla de la voix et des pensées qu'elle croyait entendre, puis ils l'allongèrent dans le cercueil, lui installèrent le casque lumineux et lui firent la piqûre d'usage. Elle plongea en quelques secondes dans une torpeur rêveuse. Eut une vague sensation de mouvement au-dessus d'elle, comme le frôlement d'une ombre. Lorsqu'elle revint à elle, elle sut instantanément que l'autre Léonie, la secrète, la rebelle, s'était retirée dans sa lointaine caverne. Elle occupait de nouveau seule son espace intérieur. Si elle n'avait pas été aussi cotonneuse, elle aurait éclaté de rire. Les hiboux attendirent encore quelques minutes avant de lui retirer le casque lumineux et de l'aider à se relever. Ils lui remirent les 1 200 € restants, 12 billets de 100, et lui dirent qu'elle serait la bienvenue si elle souhaitait renouveler l'expérience. Les sujets comme elle, réactifs, réceptifs, étaient de plus en plus rares. Elle serait payée au même tarif. Elle connaissait le numéro de téléphone et l'adresse, il lui suffirait de prendre rendez-vous. Elle fourra les billets dans son sac et les salua avant de sortir. Pressée de retrouver Denis, de se montrer à Denis sous son vrai jour, de s'abandonner à lui, elle s'engouffra en courant dans la bouche de métro. Elle courut encore pour sortir de la station, impatiente, tracassée par une sourde inquiétude. Elle déboucha hors d'haleine dans la rue qui donnait sur le squat. L'attaque avait eu lieu. Une dizaine de camions bleus nuits et grillagés stationnaient de chaque côté de l'entrée défoncée, enfumés, comme frappés par un missile. Des CRS casqués et armés de tasers enfermaient sans ménagement des hommes et des femmes dans les paniers à salade. Léonie reconnut la petite Lucie parmi les squatteurs arrêtés, mais ne vit pas la haute silhouette de Denis,